Voilà, bonjour à toutes et à tous. Que la paix de Dieu soit sur chacun de nous. Je vous rappelle quelque chose qu'il a oublié, notre frère, il était un peu distrait. Qu'on a l'étude biblique à 19h le mercredi et la réunion de prière à 19h le mercredi. Malheureusement, vous savez, on ne peut pas se réunir, donc on l'a fait par vidéo. Si vous n'avez pas le point de repère, parlez-en avec Olivier, vous leur c'est le mail, comme ça il va vous l'envoyer, ou sinon vous rentrez dans les forums de l'église et vous les trouverez toujours. Si l'église il a organisé ces choses-là, c'est parce que nous avons besoin d'étudier la parole et de prier les uns pour les autres, comme il a été dit. Donc, prenez soin à ces choses-là, ne tombons pas comme beaucoup qu'ils disent « Oh, je vais à l'église les dimanches, ça suffit ». Non, ça suffit pas. Il faut qu'on soit en communion avec le Seigneur constamment. Et l'église, elle est là pour cela. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là, vous savez, le matin, on est en train de voir la volonté de Dieu sur la vie de tous ceux qui font confiance à Dieu dans notre vie. Et là maintenant, on va parler toujours de la volonté de Dieu, mais pour les enfants de Dieu, mais ce qui concerne la fin des temps. Qu'est-ce qu'il va nous arriver à nous qui avons fait confiance au Seigneur Jésus? Je ne sais pas si vous vous êtes posé cette question. Et on a eu envie de le connaître. On n'a pas besoin d'aller chercher des médiums ou des gens qui lisent dans les futurs, je sais pas moi, ou qui inventent des histoires. Nous avons la parole de Dieu dans laquelle Dieu, il nous révèle tout ce dont nous désirons savoir. Il y a des choses qu'il nous a révélées et d'autres choses qu'il ne nous a pas révélées. Donc, nous devons lui faire confiance. Et dans Apocalypse, il nous est dit, heureux ceux qui font attention à la prophétie qui est dans ce livre. La prophétie, c'est des révélations de Dieu en ce qui concerne l'humanité, en ce qui concerne ses enfants, sur du commencement jusqu'à la fin. Et ce matin, j'aimerais vous lire deux ensembles de versets qui nous parlent exactement de ce que nous allons parler. Le premier, il se trouve dans 1 Corinthiens 15, le verset 51 à 57. Je vais vous le lire. Voici. Je vous dis un mystère. Un mystère, c'est quelque chose de caché. Mais ici, il dit, voici, je vous dis un mystère. C'est-à-dire, il nous révèle ce mystère. Ce n'est plus un mystère, mais c'est une révélation de Dieu. C'est une prophétie. Voici, je vous révèle un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est les péchés. Et la puissance du péché, c'est la loi. mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Le deuxième, il se trouve dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 13 à 17. Je lis. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Ceux qui dorment, c'est ceux qui sont morts. Afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Pas d'après ce qu'ils pensent, mais d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, en signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Hein? Le verset qu'on a lu ce matin nous donne un petit aperçu de cet événement qui va survenir prochainement, très prochainement, on l'espère. Pourquoi ? Parce que l'espérance de l'Église, notre espérance, c'est le retour de Jésus-Christ. Et donc, je vais vous parler de cet événement qui va arriver très bientôt, que c'est l'enlèvement. Même si ces mots n'apparaissent pas dans la Bible, ces choses-là, ils vont arriver. Pourquoi ? Parce que la Bible, il en parle. Les mots enlèvement, il vient d'un mot grec qui, c'est les mots arpazo, qui signifie être ramassé rapidement. Être ramassé rapidement. L'enlèvement, c'est cet événement futur quand Jésus-Christ, il va revenir du ciel, ici-bas, il va s'arrêter dans les airs et il va attirer comme un aimant tous ceux qui lui ont fait confiance. Ils vont être enlevés, ils vont être arrachés rapidement de la terre pour qu'ils puissent passer l'éternité avec eux. Et Paul, il le dit à Tite, dans 2 Tite 13, il dit « La bienheureuse espérance du croyant ». Oui, c'est notre bienheureuse espérance que le Seigneur, il vienne nous prendre, nous arracher de ce monde de peine, de ce monde de souffrance, de ce monde de péché. Il va nous prendre et il va nous amener avec lui dans le ciel. Donc, il nous dit quoi? On vient de le lire, le verset là, que nous avons ces deux passages, et j'aimerais attirer votre attention dans le mot trompette. Vous savez ce que c'est une trompette? Une trompette, là. C'est ces mots-là que j'aimerais attirer là, votre attention, qui apparaît. Et Paul, il l'utilise pour souligner cet enlèvement, la trompette. Cet événement, il va être annoncé au son de la trompette. La Bible enseigne que l'on utilisait la trompette dans la parole de Dieu. La trompette, il est utilisée en quatre temps. Premièrement, c'est pour proclamer une victoire. Et lorsque cette trompette pour l'enlèvement, il va sonner, il va proclamer la victoire de Jésus-Christ sur la mort. « Oh mort, où est ton aiguillon ?» Il va enlever tout, c'est racheté. Et deuxièmement, la trompette, elle a été sonnée pour convoquer une réunion. Lorsqu'il y avait une réunion, son des trompettes, et tout le monde, un peu comme ils font aujourd'hui dans les églises. Au moins dans mon village, je m'en souviens, vous me direz, c'est un village perdu dans la Sardaigne, en Italie, un petit village, mais chaque fois qu'il y a quelque chose, on sonnait les cloches. Là, ils sonnent les trompettes pour une réunion, c'est-à-dire convoquer tous ceux qui ont fait confiance à Jésus-Christ et ils vont être enlevé. Et troisièmement, c'est pour avertir. On sonnait la trompette pour avertir les inconvertis, pour leur dire, voilà, bientôt, il va y avoir, à vous qui vous n'avez pas accepté le Seigneur Jésus, il va y avoir le jugement. Car Dieu n'est pas seulement un Dieu d'amour, mais il est aussi un Dieu de jugement. Des jugements pour qui? Pour tous ceux qui n'ont pas voulu accepter la vérité. Et quatrièmement, on sonne de la trompette pour appeler les troupes au combat. Et il va y avoir le son de la trompette lorsque le Seigneur Jésus, il va revenir avec tous les saints, tous les anges, pour faire quoi? Pour juger les nations. Et c'est là à chaque fois. Et c'est Paul, dans ces deux versets, qui les utilise. Et Paul, vous savez, il vivait dans une époque où il y avait l'Empire romain, les légions romaines. Et les légions romaines, il était, elles aussi, dirigées par les trompettes. Et il y avait trois sons pour avertir les légions. Et le premier son de la trompette, il informait les soldats qu'ils devaient plier les tentes, qu'ils devaient se préparer. Le deuxième son de la trompette, il les avertissait de former les rangs. Et le troisième son de la trompette, c'était le départ. Donc, toujours le départ. Et dans 1 Corinthiens 15, 52, il nous est dit que au son de la trompette, nous serons tous changés à la dernière trompette, c'est-à-dire le départ. Le départ. À ne pas confondre avec la dernière trompette qui se trouve dans Apocalypse. Il y en a beaucoup qui est dans les sceaux. À ne pas confondre avec. Pourquoi? Parce que cette trompette pour l'enlèvement, ça sonne le départ pour les chrétiens à rejoindre leur Seigneur et Sauveur. La cinquième trompette qu'il est dans l'Apocalypse, c'est pour avertir le monde que le jugement y va commencer. Donc, voilà ce qui est très important. Et il nous est dit que à la dernière trompette, les chrétiens, ils vont être enlevés. Mais avant cela, il y a plusieurs événements qui vont se produire. Le premier, c'est que le Seigneur Jésus, il va revenir. Le retour de Jésus-Christ. Il nous le dit dans Thessaloniciens 4, 17. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Pourquoi dans les airs? Parce qu'il ne revient pas sur terre. Il vient, il s'arrête dans les airs et il attire, comme je dis, tous ceux qui lui ont fait confiance, il les attire et il les ramène au ciel. Mais il y a que ceux qui lui ont fait confiance, les chrétiens, qui le verront. Les autres, ils ne verront rien du tout. Voilà, le Seigneur, il va venir. Pourquoi est-ce que le Seigneur, il va revenir? Pour deux choses. Premièrement, pour accomplir la promesse qu'il a faite. Et quelle est la promesse du Seigneur? Ben, on la connaît tous par cœur, hein. Et c'est là qui est notre espérance. Il nous est dit dans Jean 14, 1, 2, il dit, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Je vais vous préparer une place. À qui? À tous ceux qui ont fait confiance au Seigneur. Le Seigneur, il nous prépare la place. Attention, n'allez pas dire, bon, le Seigneur, il n'est pas revenu parce que la place, elle n'est pas encore prête. Non, la place, elle est prête depuis toute éternité. Car dans Éphésiens, il nous est dit que nous sommes assis à la droite de Dieu. Nous sommes ici, mais nous sommes assis à la droite de Dieu. Donc, il vient nous prendre. C'est une promesse. Et ensuite, aussi, il nous est dit, verset 28, il dit, « Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais, et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père. » La réjouissance. Il s'en va au Père, c'est-à-dire qu'il va revenir. D'ailleurs, lorsqu'il est parti, vous en souvenez, lorsqu'il est monté au ciel, les apôtres, les disciples qui étaient là, ils auraient dû être dans la tristesse. Ben non, lorsqu'il est parti, ils étaient dans la joie. Pourquoi? Parce que ils avaient cette promesse qu'il reviendrait. Vous savez quelle est la dernière promesse de la parole de Dieu dans la Bible? Dans Apocalypse 22, il dit, je viens bientôt. Et l'Église, il a répondu, Amen, Seigneur, Maranatha. C'est ça notre espérance, c'est ça. Car pourquoi il doit accomplir cette promesse-là? Parce que comme il est monté au ciel, il va revenir, et les anges, il nous l'avait dit, comme ils avaient les yeux fixés vers les cieux, les disciples, pendant qu'ils s'en allaient, qu'est-ce qui est arrivé? Voici deux hommes, vêtus de blanc, leur regard, ils leur apparurent et ils dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, il viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors pourquoi Jésus doit revenir? Pour accomplir sa promesse qu'il a faite à tous ceux qui lui ont fait confiance. Et deuxièmement, il vient aussi pour accomplir son plan. Parce qu'il y a un plan préparé par Dieu, comme on a vu ce matin. La volonté de Dieu, la volonté générale de Dieu, elle va s'accomplir contre tous ceux qui veulent s'opposer. Ils n'y pourront rien. Car ce que Dieu a décidé, il va se réaliser. Et il nous est dit dans Jean 14, 3, et il dit, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Le Seigneur Jésus, il va revenir pour accomplir son plan. Quel est son plan? De ramener tous ceux qui lui appartiennent dans le paradis de Dieu, et nous serons éternellement avec lui. Nous serons avec lui. Nous le verrons tel qu'il est. Voilà le plan du Seigneur. Et c'est cela, nous qui sommes des chrétiens. Alors, qu'est-ce qu'il va arriver une fois que le Seigneur il est dans les airs? Et nous l'avons dans 1 Corinthiens 15, on l'a lu. Hein. Alors, tous ceux qui sont morts en Christ, hein, il nous a dit, ils ressusciteront. Tous ceux qui sont morts en Christ, ça veut dire quoi, morts en Christ? C'est qu'ils ont accepté le salut de Dieu et qu'ils sont morts, parce que tous ils doivent mourir. Ça, c'est le rendez-vous immanquable. Il n'y a personne qui ne meurt pas. Personne. Tous doivent mourir. Vous savez bien qu'il y a encore dans l'Apocalypse et dans l'Ancien Testament, il y en a que deux qui ne sont pas morts. Qui sont ces deux? Parlez pas tous ensemble, hein. C'est Enoch et Élie. Ils ne sont pas morts. Pourquoi? Parce que Dieu, il les a enlevés. Mais alors vous me direz, mais dans l'Épître aux Hébreux, c'est marqué qu'il est réservé à tous de mourir une fois. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Mais si encore une fois vous regardez la prophétie, vous lisez l'Apocalypse, il va y avoir à certains moments deux témoins qui vont descendre du ciel. Et ces deux témoins sont Enoch et Élie, qu'ils vont prêcher les plans de Dieu, les royaumes de Dieu, qui vont prêcher les saluts en Jésus-Christ. Et l'Antichrist, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les faire mourir. Ils vont mourir. Soyons certains que ce que dit la parole, il va s'accomplir. Tous, ils doivent mourir. Quelle est leur présente condition de ceux qui sont morts? Qu'est-ce qu'ils font, ces gens qui sont morts? On trouve dans 1 Thessaloniciens 4, 13, voilà ce qu'il dit. « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres, qui n'ont point d'espérance. » Qu'est-ce qu'il s'est passé à Thessalonique? C'est que les gens qui avaient accepté le Seigneur Jésus, les chrétiens, ils s'est posé la question, il a dit, mais les chrétiens qui sont déjà morts, qu'est-ce qu'il va leur arriver? Voilà pourquoi Paul, il le dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. Hein? Pourquoi? Afin de ne pas nous affliger comme les autres, comme les autres. Hein? Lorsqu'un chrétien meurt, pourquoi nous ne devons pas nous affliger? Car lorsqu'un chrétien meurt, il est immédiatement, je le répète, immédiatement amené dans la présence de Dieu. Immédiatement. Ça, on en a une preuve, ce que le Seigneur Jésus, il avait dit au larron, vous en souvenez? Je te l'ai dit en vérité. Je te l'ai dit en vérité, ce que je t'ai dit, c'est la vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Pas demain ou pas lorsque la fin va arriver. Vous savez, les adventistes, ils croient que lorsqu'on est mort, même le chrétien, il reste dans la tombe jusqu'à la fin. Mais le Seigneur Jésus, il dit au larron, qui s'est converti, il lui a dit, rappelle-toi de moi lorsque tu seras dans ton royaume. Ça, c'est la conversion. Et Jésus, il lui dit, je te le dis en vérité. Parce que Jésus, qui c'est Jésus? Jésus est la vérité. Ce que Jésus dit est la vérité. Et il dit, je te le dis en vérité, parce que je suis la vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Voilà pourquoi ceux qui sont morts, les chrétiens qui meurent, ils vont directement dans le paradis. Pourquoi cela? Parce que Jésus, lorsqu'il est mort et il est ressuscité, il a ouvert les portes du paradis. Pourquoi? Parce que nous étions interdits le paradis. C'est Jésus qui a fait ça. Lorsqu'il est mort, vous vous en souvenez ce qu'il est arrivé? Les voiles du temple, ils se sont ouverts. Et pas des bas à haut, mais des hauts en bas. Et c'était un voile qui faisait plus de 4 mètres, je pense. Il était bien haut, c'est pas un homme qui a fait ça. Hein. Et il était bien épais. Je ne m'en souviens plus l'épaisseur, mais il était vraiment épais. Donc, qui pouvait faire cela? Il n'y a que Dieu. Et ces voiles-là, il interdisait les gens de rentrer dans le lieu très saint. Il n'y avait que les souverains sacrificateurs qui pouvaient y rentrer une fois par an. Mais lorsque Jésus est mort, ce voile a été coupé. Et donc, c'est l'ouverture du paradis. Et Jésus, lorsqu'il est mort, il est ressuscité, il est descendu dans les enfers, dans les séjours des morts, et il a retiré tous ceux qui étaient dans les séjours des morts, qui avaient mis la confiance en Jésus-Christ. Pourquoi les séjours des morts? Parce qu'avant Jésus, puisque le paradis il était fermé, tous les morts, ils allaient au même endroit. Ils allaient au séjour des morts. Sauf que le séjour des morts, il était partagé en deux. D'un côté, l'endroit où est-ce qu'on souffrait, c'est le riche, vous en souvenez, hein, la parabole du Seigneur. Et l'autre endroit, c'était dans le sein d'Abraham. Mais tous, ils allaient dans le même endroit. Mais lorsque Jésus est ressuscité, il est descendu et il a fait monter tous ceux qui étaient dans les séjours des morts immédiatement dans le paradis. Pourquoi? Parce que la porte leur était ouverte. Donc, la question non se pose pas de quel corps ils ont lorsqu'ils sont ressuscités. Quel corps est-ce que nous aurons lorsque nous serons ressuscités? Mais la Bible l'éclaire. Nous aurons un corps glorieux. 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 On vient de lire, notre corps. C'est encore corruptible. Pourquoi? Parce qu'on meurt. Une fois qu'on est mort, où est-ce qu'il nous amène? Dans la tombe. Et ce corps, comme il a dit le Seigneur, il va retourner à la poussière d'où il a été pris. Mais au retour de Jésus-Christ, ce corps, il va revêtir l'incorruptibilité, c'est-à-dire qu'il ne changera plus, qu'il ne mourra plus, et il va être réuni à cette âme. Quelle est leur condition? Mais la condition de nos corps, c'est encore glorieux, comme celui du Seigneur. Et c'est ça que nous avons dans cette espérance que le Seigneur nous a donnée. C'est quelque chose de formidable, que notre Seigneur, il vienne et nous prenne. Vous savez, lorsque Jésus parle, dans la Bible, je ne sais pas si vous avez remarqué, chaque fois que Jésus, il s'est mis à crier, il y a eu des morts qui sont ressuscités. Et dans le verset qu'on vient de lire, c'est marqué, au cri d'un archange, au cri de Jésus, au cri de Dieu, les morts, premièrement, ils vont ressusciter. Hein, les morts, premièrement. Vous me direz, pourquoi les morts, premièrement? Quelqu'un, il a voulu faire une petite boutade, et ils ont dit, pourquoi premièrement les morts? Parce qu'ils se trouvent à 2 mètres de chez nous, ensevelis. Donc, le temps qui sorte, avec les vivants, nous serons tous enlevés. Et chaque fois que Jésus a crié, il y a quelqu'un qui est ressuscité. Et on a vu dans le verset qu'on a lu que au cri de Jésus, les morts, ils vont ressusciter et nous, les vivants, nous serons enlevés. Pour Lazare, vous en souvenez? Jésus, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Lazare, sors. Qu'est-ce qui est arrivé? Et le mort sortit. Aussi, Jésus, on le voit dans Matthieu 27, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit sous la croix. Et voici les voiles du temple se déchirant en deux, depuis les hauts jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers s'effondirent, les sépulcres s'ouvrirent. Les sépulcres, il y a eu des gens qui sont ressuscités. Les sépulcres, ils s'ouvrirent. Et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et troisièmement, lorsque Jésus reviendra, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, il descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est puissante, non seulement pour créer, mais pour ressusciter aussi. Ce qui est impossible à l'homme, il est possible à Dieu. Soyons certains de cela. Hein? Et il nous est dit que tous les chrétiens qui seront vivants à ce moment-là, ils seront enlevés. Qui sont tous les chrétiens? Bon, c'est l'Église. L'Église dont parlaient les frères. De qui est composée l'Église? De tous ceux qui se sont repentis de leurs péchés, qui s'en sont tournés vers la croix, qui ont fait confiance à Jésus et lui ont dit « Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, sois mon Seigneur et mon Sauveur. » Et ils ont vécu une vie agréable à Dieu. C'est ça l'Église. C'est tous ceux qui ont été rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ. Donc l'Église, il sera instantanément enlevée. Instantanément. Et nous le lisons dans Corinthiens 15. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Ces deux mots, ils parlent d'une période de temps indivisible. Hein. Un clin d'œil. En un instant, un clin d'œil. Voilà ce que je me suis un peu renseigné sur Internet, ce clin d'œil. Voilà ce qu'ils disent. Les scientifiques ont évalué que le clignotement d'un œil correspond dans la durée en 1/30 de seconde. En 1/30 de seconde. Ce qui est très rapide, hein. Ce qui est très rapide, hein. Et pourtant, un clin d'œil est encore plus rapide qu'un clignotement. Quelque chose qui se rapproche d'un millième de seconde. Pas un 1/30, mais un millième de seconde. Dans un instant, en un clin d'œil. Et dans Thessaloniciens 4, 17, Paul utilise le terme « enlevé ». En un instant, en un clin d'œil, les chrétiens, ils seront enlevés. Ça veut dire, comme je vous l'ai dit, être ramassés rapidement et avec force. Je vous l'ai dit, c'est comme un aimant. Hein? Jésus, il s'arrête dans les airs et il attire à lui tous ceux qui lui ont fait confiance. Et cela, il se passera très rapidement. Il n'y aura pas d'avertissement. C'est pas les journaux télévisés qui vont, attention, Jésus, il est là, il va. Non, aucun avertissement. Mais la chose, il va arriver instantanément, en un clin d'œil. Je vous laisse imaginer. Vous êtes, il y en a beaucoup ici qui sont dans les îles, hein, des îles, moi je suis d'Italien, hein. On prend l'avion. On est tous là. Le pilote, il est un chrétien. En un clin d'œil, le pilote est enlevé avec les chrétiens. Qu'est-ce qu'il va arriver? En un clin d'œil, vous aurez vu des vidéos sur Internet, n'est-ce pas? Même dans les églises. Hein? Voilà. Le pasteur, il est là, qu'il enseigne, qu'il prêche, l'église est pleine. Un clin d'œil, le Seigneur, il attire les chrétiens, les pasteurs, ils restent comme ça, ils voient les gens qui disparaissent. Et les pasteurs aussi sont restés. C'est pas parce qu'il est pasteur qu'il va être enlevé. On est enlevé si on a Jésus-Christ dans notre cœur. Et ça, c'est pareil dans nos familles. On est bien unis dans nos familles, le Seigneur y vient, qui c'est qui prend? Que ceux qui lui ont fait confiance. Qui c'est qui va rester ici? Nos enfants, nos femmes, nos maris, tous ceux qu'on connaît. Voilà pourquoi c'est très important que nous puissions être des témoins, que nous puissions être des dispensateurs de cette parole et que nous puissions tout faire pour qu'ils puissent se convertir. Car le Seigneur, il a formé nos familles. Il nous a unis. Et nous devons être unis aussi lorsque le Seigneur il va revenir. Mais il y a une chose que nous devons bien comprendre. Le Seigneur, il n'oblige personne. Personne. Pourquoi? Parce que lui, il s'est tourné vers nous avec l'amour. Et il désire que nous, on se tourne vers lui par amour. Par amour. Il n'oblige personne à l'accepter. Personne. Toute chose, ils doivent se faire par amour. Voilà, voilà les gens, les vivants, ils vont être enlevés et il y aura un chaos terrible ici-bas sur cette terre. Car une fois que l'Église est enlevée, vous savez toujours par rapport à la prophétie, il va y avoir les 7 ans de tribulation, hein, la 70e semaine de Daniel. Hein. Encore une fois, je vous le répète, hein, comment ça se fait que je connais toutes ces choses-là? Parce que je médite, j'étudie la parole de Dieu. Et parce que Dieu y révèle. Et il nous le dit dans l'Ancien, « Cherchez-moi et je vous révélerai des grandes choses. » Vous savez qu'il y a plus de médiums, des gens qui, soi-disant, lisent dans les mains qu'il y a des pasteurs. C'est ça. Ils croient lire dans les mains, appeler les esprits, faire venir les morts. Mais toutes ces choses-là, c'est des choses antibibliques. Voilà pourquoi nous devons croire dans ce que Dieu nous dit dans sa parole. Ils seront enlevés dans un instant. Et aussi, nous serons enlevés physiquement. Parce qu'il dit, nous les vivants. Encore une fois, mais alors tous ne mourront pas. Dans Hébreux, c'est marqué que tous ils doivent mourir. Mais comme Dieu, c'est le Dieu de la vie, Dieu, il transformera notre corps, car lui, il peut. Lui, il peut. Il transformera notre corps en un corps glorieux, sans passer par la mort. Et Paul, il lui l'a dit, nous ne mourrons pas tous. C'est un mystère, parce qu'avant, c'était quelque chose de réglé. Tous doivent mourir. Mais Paul, il dit, je vous révèle un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il avait dans sa tête le moment où le Seigneur Jésus serait venu. Premièrement, il ressuscite les morts. Et ensuite, nous, les vivants. Pourquoi il dit nous, Paul? Parce qu'il croyait être vivant. Il attendait le Seigneur Jésus, lui aussi. Mais nous ne savons pas. Les disciples lui ont demandé, « Seigneur, quand c'est que tu vas revenir ?» Et Dieu, et Jésus il a dit, « Personne ne le sait, même pas le Fils. » Attention, ce n'est pas qu'il ne le savait pas. En tant que Fils, il a dit, « Même pas le Fils, il ne le sait pas. » Mais en tant que Dieu, il savait. Parce qu'il était plié à la volonté de Dieu, soumis à la volonté de Dieu. Donc personne ne connaît quand cette chose il va arriver. Mais la Bible est claire, c'est physiquement, nos corps mortels seront changés en corps incorruptibles. Parce que nos corps maintenant, ils sont corruptibles, puisque nous mourons. Mais lorsque nous serons ressuscités, nos corps, ils seront incorruptibles. Hein, un corps qui ne pourra plus connaître la mort. Ô mort, où est ton aiguillon? Plus de mort, plus de péché, plus de peine, plus de souffrance. Hein, comme on dit, c'est le paradis, quoi. C'est ça que le Seigneur il nous demande. Bien-aimé, il nous dit dans Jean 3, lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui. Qui? Tous ceux qui seront enlevés, qui sont ressuscités, nous serons semblables à lui, semblables à Jésus, car nous le verrons tel qu'il est. Pas comme les gens ils nous le décrivent dans des tableaux. Il n'y avait pas de photos à cette époque-là. Hein. On l'imagine dans n'importe comment. Hein. Mais Jean il dit, alors nous le verrons tel qu'il est. Tel qu'il est. Hein? Nous ne connaissons pas grand-chose sur ce corps glorifié que nous allons avoir. Mais nous savons que c'est un corps qui n'est pas limité par le temps, ni par l'espace. Il n'est pas limité, parce que nous le trouvons dans Jean 20, 19. Il nous est dit, les soirs de ces jours, qui étaient les premiers de la semaine, la résurrection, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, il se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Ce corps glorifié de Jésus, les portes étaient fermées et il se trouvait dedans. Et il nous a dit que nous aurons un corps semblable à celui de Jésus, un corps qui n'est pas limité dans le temps ou dans l'espace. C'est un corps qui apprécie aussi la nourriture. Parce que Jésus, lorsqu'il a été ressuscité, il a mangé. Et vous savez qu'une fois qu'on est dans le ciel, tout de suite après le tribunal de Christ, il va y avoir quoi? Il va y avoir les noces de l'agneau. L'Église et l'agneau, Jésus-Christ. Et il nous est dit qu'il y a ces noces, il nous est dit dans Ésaïe, il va y avoir les plats les plus succulents qu'ils peuvent exister. Donc, c'est des corps qui peuvent manger. Qui peuvent manger. Hein? Et ce qui compte le plus, c'est un corps qui ne mourra jamais. Hein? Ça sera un corps qui a été changé définitivement. Nous ne serons plus mortels, mais nous serons incorruptibles. Incorruptibles. Voilà le mot qu'ils utilisent. Et comme il nous est dit encore une fois, tous les chrétiens se réjouiront de cette rencontre avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est notre espérance de rencontrer le Seigneur. Et il nous est dit, parce que nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux, sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi, nous serons éternellement avec lui. Nous serons toujours avec ceux que nous aimons, Jésus-Christ, et nous serons avec tous ceux qu'on a aimés pendant notre vie, et qui a été des chrétiens. Nous allons en retrouver tous ceux de nos chers disparus qui sont morts et qui sont auprès du Seigneur. Nous les retrouverons, nous allons les voir, nous allons même les reconnaître. Pourquoi? Parce que vous vous souvenez dans le mont Tabor, hein, à la transfiguration, lorsque le Seigneur il est apparu. Et il y en a deux qui sont apparus avec lui, qui sont descendus du ciel. Et les apôtres, ils ont reconnu Élie et Moïse. Comment ils ont fait à le reconnaître? Voilà, c'est nous les reconnaîtrons. Imaginez-vous. Mais ça va être juste un moment momentané. Nous serons dans la joie de rencontrer nos femmes, nos maris, nos enfants, nos parents qui sont décédés en Christ. Mais ils seront là, nous nous réjouirons, mais ils vont nous amener tout de suite, parce qu'ils connaissent déjà l'endroit, et ils vont nous ramener là où il y a le trône de l'agneau, et c'est là que tous ensemble, nous n'aurons plus des yeux pour voir notre femme, notre mari, nos enfants, mais nous aurons un seul regard, c'est vers l'agneau, c'est lui qui nous a rachetés. C'est quelque chose de fantastique. Et en plus, il nous est dit que nous serons toujours avec le Seigneur. Toujours avec le Seigneur. Pas pour un moment, mais toujours. Voilà ce que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. Pour nous donner encore plus d'espérance. Car nous avons devant nous une espérance qui doit être vivante. Jérémie nous l'a dit, Jérémie 29, « J'ai de l'avenir et de l'espérance pour vous. » C'est ça que nous avons en tant que chrétiens. Tout cela, il va survenir, comme je vous l'ai dit, à un signal donné par le Seigneur. Hein? Alors, la question qui se pose, c'est, êtes-vous prêt pour cet événement? Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts? Avez-vous cette assurance? Car c'est une assurance d'avoir été lavé, purifié par le sang précieux de Jésus-Christ. Quelle est notre assurance? Que si nous mourons, nous allons directement auprès du Seigneur. Pourquoi? Parce que nous l'avons accepté. Voilà pourquoi je dis, est-ce que nous avons cette assurance d'avoir été lavé et purifié par le sang de Jésus-Christ? Avons-nous confessé nos péchés à Dieu? Avons-nous confessé nos péchés à Dieu? Ne nous faisons pas l'idée que Dieu, c'est un Dieu d'amour, un Dieu bon. Et à un certain moment, comme disait la chanson, nous irons tous au paradis. Non. Dieu est amour, mais c'est un Dieu saint. Dieu est amour, mais il nous a avertis. Il dit, je mets devant vous deux chemins. Choisissez les bons si vous voulez vivre. Voilà pourquoi nous sommes là, pour annoncer cette bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui est mort pour nous racheter. Et tous ceux qui ont déjà Jésus dans leur cœur, réjouissons-nous, car c'est une promesse que le Seigneur Jésus nous a donnée. Je viens bientôt. Bientôt, bientôt. Vous me direz, mais c'est bientôt. Pierre, il nous l'a dit, hein. Ça fait 2000 ans qu'il nous disait, que vous nous disiez que le Seigneur va venir bientôt. Ça fait pas, c'est passé 2000 ans et encore il n'est pas venu. Arrêtez! Alors Pierre, il donne la raison. Il dit, c'est parce que Dieu est patient. Dieu ne veut pas que les gens, ils aillent en perdition. Et alors il est patient. Mais il y a autre chose aussi que Dieu nous dit dans Romains 16. Que cette venue de Jésus-Christ, nous pouvons faire revenir le Seigneur Jésus avant. Là, on attend. Comment est-ce qu'on peut faire venir le Seigneur Jésus avant? En prêchant l'Évangile, en témoignant. Car dans l'Épître aux Romains, il nous est dit, lorsque le nombre, il sera arrivé, alors le Seigneur Jésus, il va revenir. Car Dieu, c'est un Dieu omniscient. Dieu, il sait qui l'accepte ou pas. On appelle ça les élus. Qui c'est qui doit aller chercher les élus? Mais c'est nous. Aller vers les élus et leur dire, acceptez le Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu, il a vu quand je... Comment voulez-vous que à moi et à vous et à tous les chrétiens, il nous dise qu'il nous a élus avant la fondation du monde? Et nous étions où? Dieu, il connaît toutes choses. Dieu, il sait qui c'est qui va être sauvé ou pas. Dieu sait qui c'est qui va l'accepter ou pas. Mais il faut que cette bonne nouvelle, il soit annoncée à tous. Et qui sait qui doit les faire? Mais c'est nous. Voilà pourquoi, pour terminer, je vais vous dire, mais avez-vous déjà placé votre foi dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ? Avez-vous confessé vos péchés? Jésus-Christ est-il seulement un prophète, quelqu'un de bien, quelqu'un qui a fait du bien? Ou Jésus est le vrai Dieu qui est venu ici-bas pour nous sauver? Et lui, il est clair, hein? Il nous l'a dit, si vous ne croyez pas que je suis Dieu, si vous croyez que je suis un simple homme, vous mourrez dans vos péchés. Il faut croire que Jésus est Dieu. C'est seulement comme ça qu'on peut être sauvé. Car il n'y a que lui qui peut nous sauver. Pour ceux qui encore n'ont pas Jésus dans leur cœur, si vous voulez que toutes ces bénédictions soient aussi sur vous, vous n'avez qu'à vous tourner vers le Seigneur. Et le Seigneur, c'est quelqu'un qui ne fait pas de distinction. On l'a vu en étudiant l'Épître aux Éphésiens. Car dans le salut de Dieu, il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. On est tous égaux. La seule chose que Dieu regarde, c'est est-ce que tu as Jésus-Christ dans votre cœur? Si on l'a, toutes ces bénédictions, elles sont à nous. Voilà pourquoi je termine en vous disant, et à une question à laquelle vous seul, vous pouvez répondre, est-ce que Jésus-Christ est votre Seigneur et votre Sauveur? Amen.